Chapitre 2. Les enfants Chopin. Le 1er octobre de la même année, Nicolas Chopin fut nommé professeur de français au lycée de Varsovie et toute la famille s'installa dans la capitale. Elle s'y mêla tout de suite aux espèces citadines et ne retourna jamais aux champs. Varsovie était du reste une forte terre où l'on prenait aisément racine entre ses palais italiens et ses baraques de bois. Sa population grouillante joignait à la pompe asiatique la saleté du Groenland. On y voyait le juif barbu, la religieuse, la jeune fille en manteau de soie claire et le polonais moustachu, en caftan, avec le ceinturon, l'épée et les bottes rouges. Monsieur Chopin se multiplia pour augmenter ses ressources parce que sa famille s'accroissait. Après Louise et Frédéric, naquirent Isabelle, puis Émilie. En 1812, il devint professeur à l'école d'artillerie et du génie et obtint le même poste à l'école militaire préparatoire en 1815. Puis il ouvrit chez lui un petit pensionnat pour les jeunes gens riches. On voit sans peine le milieu, les mœurs, les habitudes, parmi lesquelles Frédéric grandit dans cet intérieur uni et occupé. Les vertus domestiques des siens, une modestie un peu rigide, le préservèrent des contacts sévères du réel. C'est ainsi, dit Liszt, que son imagination prit ce velouté tendre des plantes qui ne furent jamais exposées aux poussières des grands chemins. Voici donc un enfant très doux, très pâle, enjoué, d'une sensibilité de petite fille et que deux passions dominent, l'amour de sa mère et le piano. On l'avait mis de très bonne heure devant le clavier et il y retournait tout seul, attiré par les touches. La musique lui arrachait des larmes, des cris. Elle devint tout de suite un mal nécessaire. Il aimait beaucoup ses sœurs aussi, et parmi les élèves de son père, se choisit quatre amis, Fontana, Titus Wojciechowski et les frères Wozinski. Pour l'anniversaire de ses 8 ans, il joua dans une soirée au bénéfice du vieux poète Nimsevitz. On la vit habillée à l'anglaise, avec une veste de velours et un large col rabattu. Et comme sa mère, ensuite, l'interrogeait sur son succès, voulant savoir ce que le public avait préféré. « Mon col, » répondit-il avec fierté. L'aristocratie polonaise et même le grand-duc Constantin, gouverneur de Varsovie, s'intéressèrent à l'enfant. Il reçut l'ordre de paraître devant ce prince redoutable et joua pour lui une marche de sa composition. « Petit, » lui dit le frère du tsar, « pourquoi regardes-tu toujours en haut ?»« Mais n'est-ce pas vers le plafond que regardent les poètes ?» Chopin n'était ni un prodige intellectuel ni un petit animal savant, écrit l'un de ses biographes, mais un enfant naïf et modeste qui jouait du piano comme chantent les oiseaux. On lui donna des maîtres. Sifny d'abord, un assez vieux monsieur de plus de 60 ans, originaire de Bohême, violoniste, bon pédagogue et qui avait le culte de Bach. Il l'inculqua à son élève et l'on sait à quelle profondeur se gravent les enthousiasmes de l'enfance. Puis, en 1824, en même temps qu'on mettait Frédéric au collège, son père remplaça Sifny par Elsner, un professeur silésien qui lui enseigna l'harmonie et la composition. Sans être un musicien considérable, Elsner n'en était pas moins un personnage. Auteur d'opéra, de symphonie, de messe et directeur du conservatoire. Il eut le mérite de ne contrarier en rien les dons personnels de Chopin. « Laissez-le faire, disait-il. S'il s'écarte un peu du chemin battu et de l'ancienne méthode, c'est parce qu'il a la sienne à lui, et ses œuvres témoigneront un jour d'une originalité qui ne s'est encore rencontrée chez personne. Il suit une voie extraordinaire, parce que ses dons sont extraordinaires. » On approuvera ce bon prophète. Elsner était un modeste. Il habitait 2 cellules dans un vieux monastère de la rue des Jésuites. Ses élèves l'embrassaient sur l'épaule droite, à la mode polonaise, et il ripostait par des baisers sur les 2 joues. Dans son rapport annuel au conservatoire, il note « Chopin Frédéric, élève de 3e année, étonnante capacité, génie musical. » Au collège, il travaille bien aussi, remporte des prix. Enfin, c'est un adolescent facile et doux, gai jusqu'à la pitrerie, comme beaucoup de mélancoliques. Ses camarades l'adorent à cause surtout d'un talent de mimique et d'imitation qui prouve jusqu'à quel point il sentait la grimace des âmes. Il jouait la comédie avec ses sœurs, qui écrivaient des pièces pour les enfants. Il rédige un journal. Ces événements minimes émaillent une vie sans traverse. Notons trois faits seulement. En mai et juin 1825, dans deux concerts donnés au conservatoire, Chopin joue un Allegro de Moscheles et improvise devant l'empereur Alexandre qui lui offre une bague. Dans le cours de la même année, il publie son premier rondo en do mineur, opus 1, dédié à Madame Linde, la femme du recteur du lycée. Enfin, l'été suivant, il est invité par le prince Radziwill au château d'Antonin. Jouer en public n'offrait déjà plus de sensations neuves. En revanche, publier sa musique est une joie fraîche qu'il goûte avec un naïf plaisir. Et si le morceau n'est ni très profond ni très savant, il a pourtant sa marque personnelle. « Une dame, disait Schumann un peu plus tard en parlant de cette œuvrette, trouverait qu'elle est très fine, très jolie. » Voyez comme l'on pressent déjà que les dames vont s'en mêler. Telle est la première fleur de cette âme chaste. Le séjour au château d'Antonin, dans l'été de 1826, fut pour Chopin la révélation des joies que peuvent donner, lorsqu'elles sont réunies entre des mains expertes, l'opulence matérielle et les raffinements de l'esprit. Voilà ce dont ce jeune aristocrate avait besoin pour éveiller ses tables de résonance. C'est un luxe que méprise l'effort. Mais un cœur féminin ne saurait se passer de ces jouissances savamment distribuées, qui vont d'une cuisine exquise aux œuvres d'art, du confort matériel aux subtilités de l'intelligence et qui soumettent ce cœur, malgré lui, à la domination du délicieux. Pour ma part, je trouverais intéressant de connaître et l'ameublement et les tableaux et les hôtes et les conversations qu'on pouvait voir et entendre pendant cet été de 1826 chez le prince de Radziwill. Par malheur, ces renseignements ne peuvent plus être fournis d'une manière très sûre. Après tout, peut-être suffit-il de savoir que Chopin appelait Antonin un « paradis » et qu'il déclara « divine » les jeunes princesses. Mais il est bien certain que dès lors, la nostalgie de cet accord que forme entre eux la terre natale, une somptueuse demeure et des jeunes êtres heureux, a décomposé tous ses élans en d'invincibles regrets.